Dominique Philippe à Rimont, le 20 décembre 95, première conférence.
Excusez-moi, je vous avais attendre. J'étais coincé. Le sujet de cette session est un sujet extrêmement important. Vous comprenez bien. Si je le situe dans la recherche philosophique, il est au terme de toute la philosophie. Alors comprenons bien, au terme de la métaphysique, toutes les parties de la philosophie conduisent à la personne humaine. Faites un petit tableau, vous avez une pyramide, vous avez la personne humaine. Et c'est de la personne humaine, je crois, qu'aujourd'hui, nous devons poser le problème. Existe-t-il une réalité supérieure à la personne humaine ? C'est normal. Si mon intelligence humaine est capable de découvrir l'existence de Dieu, je dois me mettre au sommet de toutes mes connaissances. De toutes mes connaissances, comprenez bien, qui sont proches de mon expérience. Puisque je ne peux pas atteindre Dieu par mes idées. C'est une des vérités que Sartre a dit, que si j'ai l'idée de Dieu, ce n'est plus Dieu. Il dit ça évidemment contre Descartes, puisque vous savez ce qu'il dit, ce qu'il disait, puisqu'il est mort, ce qu'il disait, puisque maintenant dans l'éternité il ne le dit plus. Sûrement plus. Il va y avoir une purification. Ce qu'il disait, si Descartes était né à notre époque, il serait athée. Parce qu'il parle de l'idée de Dieu. Or, l'idée de Dieu ne peut pas exister. Ce qu'il a parfaitement raison. Je ne peux affirmer qu'un jugement sur l'existence de Dieu. Je peux dire, il existe un être qui dépasse tous les autres, que les traditions religieuses appellent Dieu, puisque le mot Dieu échappe au philosophe. Ce n'est pas le philosophe qui a inventé le mot Dieu, c'est les traditions religieuses. Il y a deux mots que le philosophe reçoit des traditions religieuses, peut-être un troisième, mais deux sûrement, Dieu et l'âme spirituelle, l'âme humaine. Ce sont des mots qui ont d'abord existé dans les traditions religieuses et que le philosophe a reçu des traditions religieuses, en se demandant si ces mots ont une signification propre et que ça représente une réalité et non pas un mythe. Parce que dans les traditions religieuses, ça peut représenter des mythes, vous voyez. Vous savez bien, la plus vieille tradition religieuse sur la création, je l'aime beaucoup, c'est pour ça que je la cite souvent. Et je crois que c'est vraiment la plus ancienne tradition religieuse. Elle est colombienne. Au commencement était le soleil et le canard. Ça se retient. C'était pas le canard enchaîné, mais peut-être il est devenu canard enchaîné en mangeant la pomme. Au commencement était le soleil et le canard. Alors évidemment, ça c'est un mythe, hein, parce que je sais pas, ce canard primitif, canard en soie face au soleil, ça devait être assez curieux comme spectacle. Mais quand les traditions religieuses affirment le mot Dieu, avec même le philosophe se demande si c'est une réalité ou si c'est un mythe. Heidegger dit ça avec force, et ça il a raison. Il dit, le philosophe peut regarder si le mythos, le mythe, est quelque chose de réel ou pas. Et c'est vrai, je crois que c'est un aspect du philosophe très important à travers les traditions religieuses, de discerner ce qu'il y a de juste. Eh bien, comprenez qu'au terme de ma recherche philosophique, je découvre la personne. On va voir ça. Et à partir de là, je me pose la question, est-ce qu'il existe une personne plus parfaite, première, qui soit la personne? Vous voyez? Et si je découvre l'existence d'un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu, je découvre tout de suite la relation, ou du moins je cherche à découvrir la relation qui existe entre cet être premier et moi-même. Et j'ai une nouvelle connaissance de ma personne humaine dans la lumière de la création. Il y a donc, au plan philosophique, je vous dis ça au point de départ, c'est ce que nous allons chercher, hein. Il y a donc, au plan philosophique, deux moments sur la personne humaine. La personne humaine que je découvre en premier lieu, au terme de ma philosophie, et la personne humaine que je découvre dans la lumière du Dieu créateur. Et tout ceci au plan philosophique, même si aujourd'hui, très peu de philosophes, on les compte sur les doigts, hein, acceptent que l'intelligence humaine peut découvrir sans Dieu. L'homme existe. Hein. Et que le problème de la création est un problème métaphysique, au-delà de la métaphysique, plus exactement de théologie naturelle. On a, à partir de là, un nouveau regard sur la personne humaine. Et je crois qu'il faut toujours bien distinguer ces deux moments. Oui. Nous verrons ça, puisque tout est ordonné à ça. Nous traitons donc du problème majeur de la philosophie. C'est pour ça que c'est pas commode, hein, parce que c'est le sommet. Et ça vaut la peine d'essayer de comprendre ce sommet, même si de fait, entre deux, il y a un escalier qui, quelquefois, on ne voit pas très bien si on peut mettre son pied là-dessus ou bien si ça va craquer. Parce que ça monte jusqu'à la personne humaine. Et ce qui est merveilleux dans la personne humaine, c'est que c'est l'expérience majeure que nous avons. Quand vous dites « je suis », bon, « je suis », c'est une expérience, c'est bien évident, une expérience interne et externe, puisque je peux me toucher. Mon « je suis », il est dans ma main. Il est dans mon corps. Et mon je suis, il est à l'intérieur de moi. Expérience interne. Je suis. Quand je me regarde dans la glace, je me dis, les pauvres types, ils ne voient mon je suis que de l'extérieur. Et c'est désastreux. Moi, j'ai le privilège de saisir mon « je suis » de l'intérieur. Je peux fermer les yeux, dire « je suis » quand je pense. expérience-là. Vous voyez, c'est capital aujourd'hui. Parce que on est à la fin de ce siècle. Je ne sais pas ce que les historiens diront du 20e. Mais c'est sûrement le siècle le plus extraordinaire. C'est pas étonnant parce qu'on est dedans. C'est le siècle le plus extraordinaire. Vous savez bien cette exposition qu'on avait fait à Paris, au Trocadéro, qui était si extraordinaire. On montrait depuis soi-disant les origines de la vie, les origines de l'homme, on avait toutes les choses. Puis ça se terminait. C'était très astucieux, avec un peu d'ironie. Par une grande glace à tous ceux qui visitaient cette évolution, dernier terme de l'évolution. Je me regarde dans la glace, je suis le point d'orgue de l'évolution. Tant que je suis sur la terre, je suis le point d'orgue. Après, je laisserai la place à un autre. C'était pas bête pour mettre un tout petit peu d'ironie pour celui qui savait la comprendre. Et c'est vrai que mon expérience du monde, de mon je suis, est quelque chose d'ultime. Et quand je regarde alors la philosophie européenne, c'est intéressant quand même, puisqu'on est au terme du 20e siècle. Je vois que la philosophie européenne, il y a deux moments. Deux moments. Une philosophie qui s'enracine dans la Grèce. La Grèce fait partie de l'Europe. Pas au moment où la Grèce commençait, l'Europe n'était pas encore née. Mais la Grèce, c'est quand même la source de toute la philosophie européenne. Ceci. dans les questions disputées. C'est-à-dire quand il discute, quand il est dans les discussions, pas dans la somme théologique. Il parle de Dieu qui dit « je suis », mais pas Thomas d'Aquin. En face du « je suis » de Dieu, il se tait. Mais dans les questions disputées, il parle « moi, je dis ». Moi, je dis. Moi, je suis. Mais très peu, très peu. Et Descartes, alors, ça prend une grosse place. Ça, c'est sûr. L'existence de Dieu est au service du « je suis » de Descartes. Ça. Je comprends, parce que le « je suis » de Descartes, il est tout de suite, ça dit que l'existence de Dieu, elle est plus lointaine. Et on peut dire qu'à partir de Descartes jusqu'à Hegel, il y a une continuité. Et on est en face d'une philosophie de l'esprit. Philosophie de l'être, philosophie de l'esprit. À tel point que certains se sont posés la question. Le père Dominique Dubarle, dominicain, que j'ai très bien connu, qui a été professeur de métaphysique à l'Institut catholique de Paris, la dernière année où il a enseigné, il a dit aux étudiants, nous allons chercher, puisque c'est la dernière année que je vous enseigne, s'il faut dire qu'il y a deux métaphysiques, la métaphysique de l'être et la métaphysique de l'esprit. C'était pas bête comme question. Et c'est une grande question parce qu'au fond, la philosophie européenne, c'est d'abord tout l'apport grec, philosophie de l'être, métaphysique de l'être. Puis à partir de Descartes, un grand tournant, une sorte de révolution, on renverse la vapeur, c'est cogito, philosophie de l'esprit, jusqu'à Hegel. Et pour Hegel, alors, évidemment, l'esprit et Dieu ne font qu'un. Et à partir de Hegel, la diaspora, ça part dans tous les sens. Étienne Borne a écrit un petit livre là-dessus, qui est très significatif, et montre bien, et c'est vrai, que Hegel a fait une telle synthèse de l'esprit que après lui ça va dans tous les sens et on a toute la période des idéologies athées puisqu'il y a les gueules de droite et les gueules de gauche, ce qui montre qu'il est au-dessus de la droite et de la gauche. Pour un philosophe, c'est normal. Philosophie de droite et gueule s'identifie à Dieu. On ne peut pas être plus à droite. Philosophie de gauche, on se sert de la dialectique hegélienne pour affirmer que Dieu n'existe pas. Et on a toutes les idéologies. Et dans cette philosophie, philosophie de l'être, philosophie de l'esprit. Vous voyez bien comment la philosophie de l'esprit va mettre en pleine lumière le problème de la personne humaine. Mais n'oublions pas que avant Descartes, Thomas d'Aquin découvre ce qu'est la personne humaine. Et si j'avais le temps, j'aimerais écrire un livre sur Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin, le théologien de la personne. Parce que c'est peut-être ce qu'il y a de plus original dans Thomas d'Aquin. C'est d'avoir découvert la personne. Aristote, la personne a été naufragé. On a recommencé à identifier métaphysique et logique. Si on identifie métaphysique et logique, la personne est noyée dans la logique. Et on cherche à voir comment l'universel peut être singulier. Et ça devient le grand problème, le problème constant. Alors que, en philosophie grecque, le singulier, c'est le point de départ. Et l'universel n'est pas un point de départ. Puis, Lévinas cherche la connaissance de l'autre. Ça montre bien. Si je pars de l'universel, je n'ai pas la connaissance de l'autre. C'est sûr. Si je parle de mon vécu, je n'ai pas la connaissance de l'autre. Comment puis-je le rejoindre ? Alors, comprenez au moins ceci, c'est que le problème de la personne a été posé avec une très grande acuité chez Thomas d'Aquin. Donc ne disons pas que le problème de la personne est cartésien. Non, c'est faux. Que le problème de la personne est né chez les psychologues. C'est faux. Il est né en théologie. Et vous voyez bien pourquoi il est né en théologie. Parce qu'en théologie, il y a deux grandes affirmations au point de vue de la foi. Des conciles. Dieu est un et il est trois. Il est un dans son être, monothéisme, et il est trois dans sa personne. Alors là, tout de suite, vous voyez que la très sainte Trinité, métaphysique de l'être, métaphysique de la personne, elle a tout pris, ce qui est normal. Métaphysique de l'un, métaphysique de l'être, Dieu est un. Métaphysique de la personne, il est trois. Et donc, tout l'effort d'un théologien qui veut aller le plus loin possible dans la réflexion théologique sur le mystère de la foi se pose tout de suite le problème. Mais comment il peut y avoir trois personnes et qu'il y ait l'unité. L'unité dans l'ordre de l'être. Et trois personnes. L'être et la personne se situent tout de suite. Non pas en contradiction, mais au contraire dans l'unité. Et on comprend que ça a été le grand problème de Oubliez ça, tout simplement. Et réfléchissez sur un Dieu unique, un, au point de vue de son être. L'être premier est unique, il est un. Et la foi me dit que dans cet être unique, il y a trois personnes. C'est curieux. Dans le mystère de la très sainte Trinité, l'être dépasse les trois personnes. Dans le mystère du Christ, la personne dépasse les deux natures. Il y a de quoi se tirer les cheveux. Ça ne va plus du tout, plus du tout. Et on comprend très bien qu'un grand théologien comme Thomas d'Aquin, qui veut aller le plus loin possible dans la connaissance de la réalité du mystère. Mais c'est le problème de la personne. On comprend très bien. C'est normal. Un théologien qui se dit faire une théologie scientifique, c'est-à-dire ordonner tout et exprimer les choses avec la plus grande clarté, la plus grande précision, en essayant de saisir l'ordre. Mais tout de suite, le problème numéro un, c'est celui-là, c'est la personne. Et c'est le problème numéro un de Thomas d'Aquin dans la Somme. Et on prend l'impression que toute sa vie a été polarisée par ça. Et ça n'a pas été beaucoup montré, ça. On dit Thomas d'Aquin, c'est le théologien de la nature. Mais non, c'est le théologien de la personne. Mais de son temps, il n'y avait pas de philosophie de la personne. Thomas d'Aquin s'est servi énormément d'Aristote. Il y avait une philosophie de la nature. Il y avait une philosophie de l'être. Pas de philosophie de la personne. Donc il a été obligé de piocher et de voir comment la métaphysique aboutit à la personne pour pouvoir, au point de vue théologique, arriver à une précision plus grande sur la personne. Là, Thomas d'Aquin est obligé, pour être théologien, d'être philosophe. Et je crois que la grande découverte de Thomas d'Aquin, c'est la personne. Je le dis parce que c'est intéressant, vous voyez, Moyen-Âge et Thomas d'Aquin au XIIIe siècle, comprend que pour être un théologien chrétien, c'est le problème de la personne. Mais, comprenons bien, les thomistes, disciples de Thomas d'Aquin, ont continué de répéter Thomas d'Aquin et n'ont pas cherché à découvrir profondément philosophique, scolastique, décadente, a oublié la clé de voûte. Métaphysique, le problème de la personne. Oubliant cette clé de voûte, il n'y a plus d'unité. Et on répète, sans comprendre, les fameuses voies d'accès de Thomas d'Aquin. Problème de Dieu. On ne voit pas que si découvrir l'existence de Dieu, c'est quand même le très grand effort de l'intelligence humaine. Il faut se placer au sommet, au terme de mes connaissances philosophiques pour être plus capable de découvrir l'existence de Dieu. Alors, le sommet, c'est la personne humaine. Alors, maintenant, si vous voulez, après avoir dit ça, je peux dire tout de suite que la scolastique thomiste décadente, elle a gardé quelque chose, c'est évident, quelque chose d'important, mais sous l'action de Occam, 14e siècle, on a identifié métaphysique et logique. Et on a une peine énorme de redécouvrir la métaphysique pour elle-même. La logique, c'est plus facile à garder. Parce que la logique, on regarde l'universel, le fruit de ma connaissance humaine. Et donc, c'est tout proche. Mon langage garde l'universel. Tandis que mon langage ne garde pas la métaphysique. Mon langage est au niveau de la logique, il dépasse au niveau de la métaphysique. Et c'est pour ça que si facilement on perd le sens de la métaphysique, et en perdant le sens de la métaphysique, le problème de la personne est resté de côté. On l'a répété. D'où, dans la philosophie contemporaine, on peut dire qu'il y a eu un effort extrêmement intéressant pour découvrir le point de vue de la personne humaine. Alors, je pourrais vous montrer cet effort qui est extrêmement important, qui nous permettrait de faire comme une topique historique de la personne humaine. On verrait que, de fait, en philosophie grecque, les premiers qui ont vraiment parlé de la personne, ce sont les stoïciens. Puisque pour Aristote, pour Platon, le mot prosopon, personne vient dans son origine du masque. Les tragédies grecques se jouaient avec des masques. Et vous savez pourquoi ? Pour qu'on puisse vous entendre. Moi, je prends un masque. Mais il est très, très simplifié. Vous voyez, je suis un fil de fer comme ça. Quand on n'a pas de voix, on a besoin d'avoir un masque. Et la philosophie grecque avait inventé ça pour que ça ne se voit pas. Enfin, au-delà de ça, je pourrais prendre une grande, grande figure, la figure du philosophe, le masque d'Aristote, de Socrate. On devrait inventer ça ici. On mettrait le masque de Socrate, puis on prendrait ce masque de Socrate et vous verriez uniquement le masque de Socrate. Parce que je jouerai le rôle de Socrate. En jouant le rôle de Socrate, je m'identifie à sa personne. Et donc le masque manifestait la personne. Ah oui. pied, il y aurait le masque du président de la République. Chaque fois que le président de la République parlerait français, française, on aurait le masque. Tout de suite. Si la politique française avait un peu plus d'ironie, un peu plus d'intelligence, on aurait fait ça à partir de De Gaulle, le masque de De Gaulle. Puisque tout s'essaie de limiter. Alors voilà. Alors qu'ils mettent le masque. Ça, c'est joli, ça. Et c'était la personne. Vous voyez, c'est par le point de vue du drame que le mot personne a commencé d'avoir son importance. On jouait un rôle. Hein, on jouait un rôle. On le dit encore. On joue un rôle. Et pour bien le jouer, il faut s'y engager complètement. Il faut que ce rôle soit vécu de l'intérieur. Donc, qu'on prenne la personne de l'autre. Qu'on joue dans la personne de l'autre. C'est ça l'acteur. Et un bon joueur, c'est ça. Il se dépersonnifie pour être la personne de ce qu'il joue. Ce mot, prosopone, avec les stoïciens, a été employé pour montrer ce qu'est la personne humaine. Alors, non plus le masque, mais la réalité personnel, responsable. Le mot personne, chez les stoïciens, c'est l'homme engagé au point de vue politique et qui est responsable. Et c'est la personne qui essaie d'être parfaitement docile à Zeus, le dieu des dieux. Conformer sa volonté à la volonté de Zeus. Vous voyez, il ne faut jamais oublier que le stoïcisme était présent à Rome en l'an 50 quand le christianisme est arrivé. Il ne faut jamais oublier que Pilate, représentant le César, était formé à la philosophie stoïcienne. Épictète. Épictète qui était le philosophe qui avait été esclave. C'est l'esclave devenu philosophe. C'est beau du reste, hein, de voir que l'esclave devenu philosophe joue ce rôle et n'hésite pas à parler aux sénateurs romains. En leur disant, vous croyez être libre et vous êtes dépendant des élections. Et vous êtes dépendant des élections. Et c'est pour ça que vous n'agissez pas selon votre liberté, la recherche de la vérité. Vous pensez toujours aux élections. Hein, c'est vrai. Encore maintenant. C'est évident. Vous voyez, on mène la politique en voyant les suffrages universels. Ah, ça baisse. Ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte. Et les gens jugent en fonction de ça. Alors, il ferait bien d'y avoir un Épictète qui est une espèce d'imbécile. Vous croyez que vous êtes libre? Ben non, vous dépendez de ça. Vous êtes entièrement en dépendance. Et encore bien plus que du temps d'Épictète. Le suffrage universel est une manière de gouverner. Parce que ce sera celui-là qui passera. D'où l'importance des médias. Qui font. On comprend comment la personne humaine est ficelée aujourd'hui au suffrage universel, au point de vue politique. Le mot personne a commencé par le point de vue politique chez les stoïciens. Et puis, pratiquement avec le mystère chrétien de la foi, le mot personne a pris une importance toujours plus grande. Prosopone, persona. Et le mot personne a été regardé de très près pour le mystère de la très Sainte Trinité, le mystère du Christ et le mystère de l'Église. On a essayé de préciser ce que c'était que la personne. Et c'est pour ça que si facilement on dit que le mot personne est le fruit d'une philosophie chrétienne. Il y a quelque chose de vrai. Mais ce n'est pas entièrement vrai. Puisque les stoïciens, les premiers, ont parlé de la personne, indépendamment de la révélation chrétienne. Donc oui, c'est complexe. Hein. Faut pas agir trop vite et trop dire tout de suite. Hein. Non. Mais sûrement que la réflexion sur la personne est un noyau à la fois un fruit de toute la philosophie grecque et puis en même temps le fruit de toute une réflexion de théologie chrétienne. Et il y a eu la rencontre des deux. Et c'est ça qui est important à voir. Je dois vous rappeler, je n'ai pas fait tout à l'heure, il y a les cours et il y a les carrefours. Je ne dis pas les contre-cours, mais les carrefours où, de fait, on se réunit pour discuter sur ce qui a été dit. Si on a compris, si on n'a pas compris, en premier lieu, c'est d'essayer de mieux comprendre les cours. Mais quelquefois, les carrefours peuvent être anti-cours. Vous voyez dans quel sens je veux le dire. Ce qui a été dit est faux. Alors, ces carrefours sont dirigés par un frère, un père, qui, au point de vue philosophique, est déjà compétent. Vous aider, vous éclairer. Alors, je ne m'en occupe pas. Mais si dans les carrefours, il y a des questions importantes posées, je demande que ces questions reviennent ici et que je puisse les traiter. Vous voyez, les carrefours doivent essayer de traiter de toutes les questions qui peuvent se poser. Il y en a beaucoup, forcément. Je vous parle très librement. Mais il y a un langage philosophique. J'essaie d'avoir le langage le plus simple qui soit. Mais il y a forcément des termes philosophiques qui vont savoir. Quelquefois, on s'arrête devant ça. Alors, c'est à 3h30, je crois. Hein, 3h30. Tous ceux qui veulent participer au carrefour, qu'ils reviennent à 3h30 ici. Et à ce moment-là, ceux qui organisent les carrefours organiseront diverses équipes. Vous voyez ? Parce qu'il y a les commençants, les novices au point de vue philosophique. Alors, c'est une maternité philosophique. Une sœur philosophique, bon. Je sais pas si elles sont là pour ça, mais au moins il y aura quelqu'un qui sera là. Et puis ceux qui sont déjà très très calés, les questions ne sont pas les mêmes. C'est pour qu'on puisse discuter plus à fond. Et puis entre deux, ce qui est nécessaire, puisque les carrefours, il faut pas être trop nombreux. Il faut pas être non plus deux, peut-être un peu plus, 10, 15. C'est ceux qui organiseront les carrefours qui feront ça. Alors, soyez ici. Ceux qui ne veulent pas assister au carrefour, ils sont libres. Totalement libres, faut pas croire du tout. Hein. Mais on vous demande de ne pas passer d'un groupe à l'autre sans avertir celui qui est responsable du groupe d'un minimum d'organisation. Parce qu'autrement, qu'est-ce qui se passerait quelquefois que tous d'un carrefour passeraient à l'autre, puis il arriverait. Et puis, je crois qu'il y a un mouvement même qui est bon, où on se connaît à travers les carrefours. On voit ceux qui aiment de parler, ceux qui se taisent, ceux qui ainsi de suite, hein. Ceux qui s'opposent tout le temps, parce qu'ils ont une pensée dialectique d'opposition pour faire avancer la question, alors ils s'opposent systématiquement. Mais c'est une opposition un peu rhétorique, qui n'est pas vraie. Et il y a ceux qui cherchent la vérité. Alors ceux-là creusent et veulent creuser. C'est pour ça que c'est très intéressant, les carrefours. Mais uniquement au point de vue psychologique, c'est très très intéressant. C'est... Parce qu'on voit tout de suite les mentalités qui s'expriment forcément. Vous avez reçu une douche pendant une heure, une douche philosophique. Bon, vous avez réagi, c'est impossible autrement. Et vous avez noté vos réactions, c'est très bien. Alors vous pouvez les exprimer pour que quelqu'un puisse vous aider à une recherche philosophique. Donc, à 3h30 ici, on fera le partage des eaux. Vous poserez vos questions, il y aura des réponses. Et s'il n'y a pas de réponse, on les reviendra ici. Et au début de chaque cours, ou bien le soir, quand les gens sont un peu plus fatigués, je répondrai à toutes les questions. Autant qu'on peut répondre. Autant qu'on peut répondre. S'il y aura des questions qui resteront des questions, heureusement, il y a des points d'ailleurs. Vous ne faites pas la session pour supprimer toutes les interrogations. Vous suivez la session philosophique pour éveiller vos questions. L'intelligence s'éveille en interrogeant. Il ne faut jamais l'oublier. Et c'est par l'interrogation qu'on avance. Les vraies interrogations. Et les vraies interrogations, écrivez-les. Parce que quand on écrit, on voit tout de suite les interrogations qui tiennent la route et les interrogations qui ne tiennent pas la route, qui sont tout simplement une émotion fugitive. Et alors à ce moment-là, c'est pas une véritable interrogation philosophique. Et c'est pour ça que c'est bon de les écrire. Mais pour avancer, puisque ce que nous cherchons, c'est d'avancer ensemble, d'aller le plus loin possible que nous pouvons dans cette réflexion philosophique. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en